Et le journal, c'est avec vous, Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. À l'exception espagnole, en Europe, les socialistes remportent les élections législatives, mais le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, va devoir trouver des alliés pour gouverner. Une coalition avec les indépendantistes catalans semble difficile à mettre en œuvre. Dans un instant, l'analyse de notre correspondant à Madrid, Mathieu de Taillac. 1822 milliards de dollars, c'est le montant des dépenses militaires mondiales en 2018, chiffre en hausse, à cause notamment du budget américain de la défense, les explications de Loïc Loury à New York. Le dossier de ce journal consacré à la déradicalisation en Arabie Saoudite, dans un pays qui a encore exécuté une quarantaine de terroristes présumés, il existe un centre pour venir en aide aux repentis, le reportage d'Edith Bouvier et Céline Martelet. La Cour européenne des droits de l'homme autorise la France à expulser un islamiste algérien assigné à résidence dans la Loire. Une décision sans précédent, nous expliquera Maxime Fayol. Dans le paysage politique européen bousculé par les populismes, la péninsule ibérique fait figure d'exception. La gauche unie gouverne au Portugal et en Espagne, le Parti socialiste est donc arrivé largement en tête hier des élections législatives anticipées avec 123 sièges sur 350. À droite, le Parti populaire est laminé avec 66 sièges, concurrencé désormais par Vox, la formation d'extrême droite qui obtient 24 sièges. Le PSOE du président du gouvernement Pedro Sanchez est bien parti pour se maintenir au pouvoir, mais pour gouverner, il va lui falloir former une coalition. On retrouve à Madrid notre correspondant Mathieu de Taillac. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Mathieu, première option pour Pedro Sanchez, s'allier avec les centristes de Ciudadanos qui ont obtenu 57 sièges, mais cette option a du plomb dans l'aile ce soir.
Oui, on peut même dire que cette option a du plomb dans l'aile depuis de bons mois, parce que Ciudadanos, depuis la mi-février, nous répète qu'ils ne veulent pas de pacte avec les socialistes. Alors c'est vrai que c'est bien qu'ils nous le confirment aujourd'hui, après nous l'avoir confirmé pendant toute la campagne, parce que Ciudadanos avait aussi promis, juré et presque craché en 2016 qu'il ne soutiendrait pas Mariano Rajoy, et finalement ils l'ont fait. Donc la différence cette fois-ci, c'est que cela ressemble à une orientation stratégique. Ciudadanos, qui avant s'alliait un coup avec la gauche, un coup avec la droite, a décidé cette fois-ci de chasser sur les terres du Parti populaire, que vous avez dit laminé justement. Le PP a obtenu hier soir les pires résultats de son histoire. Ciudadanos se dit sans doute qu'il y a peut-être une place à prendre.
Alors, deuxième option pour Pedro Sanchez, Mathieu, une coalition avec Podemos, la gauche radicale et les indépendantistes catalans. Le problème, c'est que le PSOE défend l'unité de l'Espagne.
Oui, parce que pour négocier avec Podemos et avec les partis régionalistes modérés, ça, les socialistes savent faire, ils l'ont déjà fait, mais pour discuter avec les indépendantistes catalans, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Sanchez avait tenté le coup en 2016, ça lui avait valu d'être débarqué de son poste de secrétaire général du PSOE. Cette année, cette fois-ci, comme chef du gouvernement, il avait tenté un dialogue avec les indépendantistes, ça lui avait valu un scandale à droite et une grande manifestation, et puis finalement, ces mêmes indépendantistes catalans, ce sont eux qui l'avaient porté au pouvoir en votant la motion de censure contre Rajoy, mais ce sont aussi eux qui ont voté contre son budget, ce qui a conduit aux élections d'hier. Autant vous dire que le PSOE ira avec des pincettes. Il va surtout attendre que passent les élections municipales. Elles se tiendront le même jour que les européennes, le 26 mai. Les négociations devraient donc mettre un peu de temps avant de démarrer.
Mathieu de Taillac en direct de Madrid, merci. La perspective d'un gouvernement populiste qui s'éloigne en Espagne, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le président français qui a retrouvé la chancelière allemande aujourd'hui à Berlin pour un sommet consacré aux Balkans. Au cœur des discussions, les tensions entre la Serbie et son ancienne province, le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par une bonne partie de la communauté internationale. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et tous.
En direct de Berlin, Ludovic, Emmanuel Macron et Angela Merkel espèrent réconcilier les Serbes et les Kosovars.
Oui, ils vont avoir pour cela plus de 3 heures de discussion, mais Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel le savent bien, ce n'est aujourd'hui qu'un petit pas sur une longue route et non quelque chose qui va déboucher tout de suite sur un résultat. Ce sont les mots, il y a quelques minutes, de la chancelière Angela Merkel, juste avant l'ouverture de ce sommet, co-organisé avec la France. C'est une initiative commune de Paris et de Berlin qui veulent mettre en avant leur propre expérience en matière guerre de réconciliation. J'ai envie de dire, en ce moment, c'est un petit peu une gageure, Stanislas, quand on sait, certes, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une grosse brouille, mais les relations entre la France et l'Allemagne ne sont tout de même pas au beau fixe. À l'instant, alors, lors de la conférence de presse, Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, a quasiment voulu démentir cette mauvaise relation. Écoutez-le.
Vous étiez à Paris pour qu'ensemble nous puissions discuter avec la Chine. Aujourd'hui, nous traitons ensemble d'un sujet européen au premier chef et je pense que c'est aussi comme ça que nous concevons l'efficacité de la relation franco-allemande et notre volonté de faire ensemble. Je n'ai rien à retirer à ce que vient de dire à l'instant Madame la Chancelière.
Voilà, c'est une façon, vous voyez, bien appuyée, bien surlignée de la part d'Emmanuel Macron de se tourner vers la chancelière Angela Merkel et de dire à la presse et aux observateurs que tout va bien entre Paris et Berlin, plus sur le fond de ce dossier des Balkans, plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'exemple de la Macédoine du Nord et de la Grèce qui va être mis en avant ce soir par Angela Merkel et Emmanuel Macron, car dans cette région des Balkans, il s'est quand même passé quelque chose qu'on attendait depuis maintenant 30 ans. Le règlement de cette brouille entre la Grèce et la Macédoine du Nord. C'était en tout début d'année.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. Les dépenses militaires mondiales ont continué à augmenter en 2018. 1 822 milliards de dollars au total, une hausse de 2,6%. Il s'agit du plus haut niveau depuis 1988, selon les derniers chiffres du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm. Deux pays concentrent l'essentiel de cette augmentation, la Chine et surtout les États-Unis. La correspondance à New York de Loïc Loury.
Les États-Unis resteront encore longtemps la plus grande puissance militaire mondiale. Voilà la première leçon de cette étude. Le pays, en effet, pèse pour un tiers des dépenses globales, quasiment autant que ses huit poursuivants. Le budget américain, surtout, a augmenté de près de 5% l'an dernier. C'est une première depuis 7 ans. Pour atteindre 650 milliards de dollars, la tendance devrait se poursuivre ces deux prochaines années. Si les systèmes d'armement sont devenus plus complexes et donc plus chers, cette augmentation a d'autres explications, notamment la mise en œuvre sous Donald Trump de nouveaux programmes d'acquisition d'armes. Face aux États-Unis, la Chine, identifiée comme une concurrente, sinon une menace, participe par ailleurs à cette course militaire avec des dépenses quasiment doublées depuis 2009. Le président américain, enfin, avec son refus du multilatéralisme, n'envoie pas de signaux très positifs au reste du monde. Il y a quelques jours, face au lobby américain des armes, il a ainsi rejeté un traité des Nations Unies visant à moraliser le commerce militaire.
Loïc Loury, merci. En Afghanistan, plusieurs milliers de dignitaires politiques ou religieux sont réunis depuis ce matin à Kaboul. Ils participent à une Loya Jirga, grande assemblée traditionnelle dans le pays. Au menu des discussions, l'éventuelle conclusion d'un accord de paix avec les talibans. Le groupe islamiste a déjà commencé à négocier avec les États-Unis d'un possible retrait des troupes américaines. Environ 1500 femmes participent à cette Loya Jirga, soit 30% des délégués. Elles entendent bien faire valoir leurs droits au moment où les talibans reviennent dans le jeu politique afghan. Le reportage à Kaboul de Sonia Ghezali.
Onab Barz quitte la Loya Jirga, une pochette porte-documents marron sous le bras, estampillée du sceau du gouvernement afghan. Elle participe à l'Assemblée en tant que représentante du Comité national olympique.
Les femmes étaient très actives, elles s'exprimaient, donnaient leur opinion. Elles ont le droit de voter pour ce qu'elles veulent. Je suis heureuse d'avoir participé à cette première journée de Loya Jirga.
Demain, les débats commenceront au sein d'une cinquantaine de comités de discussion et elle s'est donné une mission.
À Doha, il faut plus de 15% de femmes pour les négociations de paix. C'est le message principal que je suis venue faire entendre ici.
Le gouvernement afghan ne participe toujours pas au pourparlers de paix à Doha ou au Qatar. Les réunions n'ont été que bilatérales entre les États-Unis et les talibans. C'est à eux que veut s'adresser Lina Shirzada, journaliste dans la province du Badakhshan, qu'elle représente au sein de la Loya Jirga.
Il faut que les talibans écoutent et acceptent ce que l'on a à dire. On ne veut pas retourner en arrière. Depuis 18 ans, on a réalisé des progrès dans tous les domaines. On ne veut pas d'une régression. On ne veut pas perdre la liberté acquise ces dernières années après les négociations. C'est pour ça que les femmes doivent participer à ces négociations pour défendre nos droits.
Même si les talibans ne participent pas à l'assemblée représentative, Lina Shirzada compte bien répéter ses mots à tous ses interlocuteurs afin que le message soit transmis au plus grand nombre.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI en Afghanistan. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir en Arabie Saoudite à la découverte de ce que l'on qu'on appellerait en France un centre de déradicalisation. Ouvert il y a 13 ans, le centre Mohamed Ben Naïef a déjà pris en charge plus de 4000 anciens détenus condamnés pour terrorisme. L'initiative a de quoi surprendre dans un pays qui a encore exécuté la semaine dernière une quarantaine de supposés terroristes. Edith Bouvier et Céline Martelet font partie des rares journalistes qui ont pu visiter le centre Mohamed Ben Naïef dans la banlieue de Riyad. Reportage.
À bord de sa voiturette électrique, c'est Abou Magaïef qui nous fait la visite. L'homme au sourire rare est le directeur du centre Mohamed Ben Naïef.
À gauche, là, les maisons où sont logés nos pensionnaires. Les pensionnaires plus radicaux ne sont pas mélangés aux autres. Ils ne doivent pas les croiser. Chaque groupe de pensionnaires a des activités séparées.
Vous l'entendez ici, les ex-détenus sont devenus des pensionnaires. 160 hommes vivent en ce moment derrière les murs épais de ce centre construit en banlieue de Riyad. Comme partout en Arabie Saoudite, tout y est impeccable. Les fleurs, les oiseaux font presque oublier les barbelés à l'extérieur. Les hommes pris en charge ici ont tous été condamnés pour terrorisme, rappelle immédiatement le directeur du centre.
Il y en a qui ont pris 10 ans, d'autres 12 ans. Il y en a même qui ont été condamnés à 20 ans. Ça dépend de ce qu'ils ont fait.
Ces ex-détenus, nous ne pourrons pas les interroger ni même les voir. Nos demandes ont été refusées. Une partie de ce centre impressionne toujours les visiteurs.
Ici, c'est la piscine.
Les pensionnaires restent au minimum 3 mois dans ce centre. 116 référents religieux les encadrent. L'islam conservateur reste de rigueur, mais les psychologues, comme le docteur Michel Maguil, sont presque aussi nombreux que les religieux.
Si un pensionnaire retourne dans notre société sans avoir réglé ses problèmes psychologiques, comme l'anxiété par exemple, il va rebasculer. Être dans un état de stress entraîne la récidive. Une prise en charge avant un retour dans la société permet d'augmenter les chances de réussite.
Une prise en charge à dimension humaine très éloignée de ce que peut être la justice en Arabie Saoudite. Le jour de notre venue au centre Mohamed Ben Naïef, 37 hommes condamnés à mort ont été exécutés à Riyad pour avoir formé une cellule terroriste. Aucun commentaire sur ces exécutions au cours de notre visite. Le docteur Bader El-Kassim, un spécialiste de l'art-thérapie, préfère nous montrer une immense galerie où sont exposés les dessins d'anciens détenus.
Cette section est
ici, ce sont les dessins d'un ancien détenu de Guantanamo. Au début, vous pouvez voir qu'il a peint avec du orange qui rappelle sa tenue de prisonnier. Il y a cet œil qui le surveille tout le temps, et sur celui d'après, peint plus tard, il y a de l'espoir, des fleurs, et vous voyez comment il évolue dans sa création.
Quelle est l'efficacité de cette méthode? En 2009, les autorités saoudiennes avaient reconnu que 11 ex-détenus passés par le centre avaient à leur sortie quitté le pays pour rejoindre Al-Qaïda. À la fin de leur séjour au centre, les pensionnaires sont réévalués selon 37 critères, précise le docteur Al-Chéri.
Est-ce que le pensionnaire traite les autres avec respect? Est-ce qu'il accepte la contradiction? On voit s'il est sincère, s'il ne tente pas de nous manipuler.
Les responsables du centre assurent que 88% des ex-pensionnaires ont totalement rompu avec les organisations terroristes. Les autres sont renvoyés en prison, un chiffre impossible à vérifier. Cette méthode saoudienne, en tout cas, intéresse, intrigue les pays du monde entier. Plus de 450 délégations ont visité le centre ces dernières années. Des élus, des responsables du renseignement, américains, britanniques, belges. Parmi eux, une toute petite poignée de Français.
Le reportage de Céline Martelet et Edith Bouvier, retrouvé en version enrichie sur francecultures.fr. La disparition de notre confrère Arnaud Dubus, ancien correspondant de RFI et Radio France en Thaïlande. Arnaud Dubus est mort aujourd'hui à Bangkok, il avait 55 ans. Arnaud Dubus avait quitté le journalisme pour la diplomatie, il travaillait à l'ambassade de France en Thaïlande. C'est une décision sans précédent en matière de justice européenne. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, autorise la France à expulser un homme condamné pour terrorisme. Il s'agit d'un trentenaire que Paris souhaite renvoyer en Algérie, un islamiste condamné pour avoir fourni à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, des lunettes de vision nocturne et de l'argent. La préfecture de la Loire avait décidé de prendre un arrêté d'expulsion il y a un peu plus d'un an. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Un arrêté validé donc par la CEDH, une décision surprenante car la Cour refuse en général ces demandes d'expulsion.
Et oui, la Cour estimait qu'il y avait trop souvent un risque de maltraitance envers les personnes expulsées. Comprendre si l'on renvoie une personne condamnée pour terrorisme dans son pays d'origine, elle risque bien souvent la torture. Or aujourd'hui, la CEDH arrive à l'unanimité d'ailleurs, c'est important, à la même conclusion que les juridictions françaises. Ce risque n'existe pas concernant cette personne. Les autorités algériennes ne montrent pas un intérêt particulier pour le requérant, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune poursuite judiciaire en Algérie, détaille la Cour. C'est une décision d'autant plus surprenante qu'elle est en contradiction avec un arrêt de cette même Cour rendu en février 2018 dans une affaire similaire. La Cour avait alors condamné la France. Alors, si la CEDH a pris aujourd'hui cette décision, c'est que la situation en Algérie a évolué, selon elle, ces dernières années. Les allégations de torture ne sont pas mentionnées dans les rapports pour les années 2017 et 2018. Pratiques modifiées, réformes institutionnelles, plusieurs juridictions européennes sont arrivées à la même conclusion. Pourtant, il y a un an, l'ONU s'était encore inquiétée d'une définition jugée trop large de la notion de terrorisme dans le pays. Une définition qui pouvait entraîner des abus.
Maxime Fayol, merci. Les chiffres sont alarmants car ils sont en hausse. Depuis le début de l'année, 28 policiers et 2 gendarmes se sont suicidés. Alors pour répondre au malaise des forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur a mis en place une structure d'écoute, le CAPS, pour cellule alerte prévention suicide. Les agents pourront contacter un numéro d'appel disponible 24 heures sur 24. Maude Calves a recueilli le témoignage d'un policier de Lyon, arrêté par la médecine du travail pour burn-out depuis 6 mois. Après 30 ans de carrière, il a failli passer à l'acte.
C'est une machine, c'est un pion, on est place et puis tant pis pour nous. La hiérarchie nous met une pression incroyable, il faut toujours plus, sans jamais rien en retour. Travailler les jours fériés, les nuits, les week-ends, c'est pas idéal pour une vie de couple. Hein. J'en pouvais plus, on ne pas au boulot, des problèmes personnels, mais ça, les problèmes personnels, c'est toujours pareil, hein. Tout le monde s'en fout, ils n'en tiennent pas compte. L'irrespect est vraiment flagrant. Les menaces, les injures, mais c'est vrai que j'allais au travail à reculons, c'est pas facile. J'essaye de pas y faire attention, mais ça passe pas. Les insultes, tout ce qu'on peut voir contre la police. Pendant 30 ans, j'ai travaillé pour la tranquillité publique, et finalement, on me crache la figure. Bon, ça j'ai l'habitude, hein, mais du jour au lendemain comme ça, et franchement, j'ai plus envie de retravailler pour des gens qui n'ont plus de reconnaissance. Vous êtes au milieu et dessus, il y a les gens et dessous, il y a les hiérarchies, vous êtes pris en tenaille. J'ai croisé des collègues que j'avais rencontrés à tout début de ma carrière, mais certains sont dans un état, mais ça fait peur, ça fait très peur.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Maude Calves. On se souvient que lors du 23e acte des Gilets jaunes le 20 avril dernier, plusieurs manifestants avaient scandé face aux policiers « Suicidez-vous ». Une enquête a été ouverte et un homme soupçonné d'avoir participé à ces appels au suicide doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel à Paris. 4 jours après les annonces post-grand débat d'Emmanuel Macron, le gouvernement était en séminaire aujourd'hui à Matignon. Objectif, mettre en musique les décisions du chef de l'État. Édouard Philippe est en train de tirer les conclusions de ce séminaire. Un séminaire qui a débuté ce matin de façon classique avec les ministres réunis autour d'Édouard Philippe. Et la formule a innové cet après-midi avec l'arrivée des représentants de la majorité parlementaire. Rosalie Lafarge.
Délaissés, exclus de la réflexion, oubliés dans le débat, les parlementaires, pour certains, n'ont pas toujours mâché leurs mots. Être cette fois conviés à cette journée de travail autour d'Édouard Philippe, c'est donc une excellente nouvelle pour le chef de file des députés La République En Marche, Gilles Legendre.
C'est une initiative inédite. Jamais les parlementaires n'avaient été associés à un séminaire gouvernemental. C'est une très bonne initiative qui va permettre de resserrer encore plus les rangs, si c'est possible, entre l'exécutif et la majorité parlementaire.
Nous devons avoir la même ambition et la même vision des contraintes, a rappelé d'entrée de jeu Édouard Philippe ce matin, comme un appel justement à resserrer les rangs, car tout l'enjeu est de ne pas décevoir les Français. Et ça s'annonce plutôt bien pour le porte-parole des sénateurs En Marche, Julien Bargeton. Il veut voir dans cette invitation des parlementaires la preuve de la bonne foi du président.
Le président de la République a mis une inflexion dans la méthode lors de sa conférence de presse, et les Français d'ailleurs l'ont reconnu. Hein. Les enquêtes d'opinion montrent que les Français ont été attentifs à ce changement de méthode, cette inflexion. Voilà, il faut faire respirer différemment la démocratie sous la Ve République. Et on y est prêt. Il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées dans ce sens. et on va préciser tout ça.
À commencer par le calendrier, qui fait quoi et quand, c'est de ça qu'il est notamment question depuis ce matin à Matignon.
Rosalie Lafarge depuis Matignon avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Nous reviendrons dans le journal de 22h sur les conclusions de ce séminaire gouvernemental. Le temps demain, frais le matin avec le développement de belles éclaircies en journée sur la plupart des régions, mais le ciel restera nuageux et parfois pluvieux. Le matin, des Hauts-de-France à la plaine d'Alsace, température minimale 2 à 7 degrés en général, avec des petites gelées de l'Auvergne au nord-est. Les maximales iront de 13 à 23 degrés du nord au sud. 18h, presque 20 minutes sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Benjamin Ducy.